Bonjour et bienvenue sur Pack the Pot, donc votre podcast du ballon ovale. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, je suis l'américain de notre petite bande d'amis qui sont réunis par le rugby. Je suis super content d'avoir sur mes côtés, au micro comme au terrain auparavant, Charlie Bayer.
Ouais, je suis ravi d'être là mon TK, sauf que sur le terrain j'étais plus derrière toi qu'à tes côtés. Mais je suis ravi d'avoir partagé le terrain avec toi et de partager ce podcast avec toi.
Charlie, j'ai noté que ton nom de famille Bayer, en fait c'est pas loin de bière dans trois langues différentes au moins.
C'est le destin qui m'a appelé, voilà, c'est ça, c'est un nom prédestiné, je pense. Bizarrement, allez, c'est un nom allemand, donc la lamagne et la bière, c'est des grands amis aussi.
Ah oui. Allez, on a une introduction rapide aujourd'hui, Charlie, parce que nous avons un super interview à partager avec vous, celle de Patrick Tabacco.
Et à propos de partage ticket, je m'adresse aux auditeurs pour leur rappeler de venir nous voir sur Facebook, Twitter, Instagram pour partager, commenter, donner votre avis. On attend beaucoup vos retours.
Alors, nous allons partir en voyage avec Patrick Tabacco, donc ancien troisième ligne avec l'équipe de France, de Colombier, CAS et notamment Stade Français.
Ouais, et pour vous présenter Monsieur Tabacco, voici l'historien, le Laurent Deutsch de notre pack de potes, Théodore de Saint-Rémy, qui va vous en parler un peu.
Pack de potes, terrain 10.
Oui, Patrick Tabacco, c'est un joueur que les gens qui regardaient le rugby dans les années 90 et début des années 2000 ont bien connu. Il a été un joueur assez emblématique, d'abord de l'équipe de Colomiers, puis du Stade Français, avec 18 sélections en équipe de France quand même. C'est un garçon qui, comme Fabien Galthié, a fait le choix de partir de Colomiers, dans lequel il n'avait pas de succès sur les fins de phase finale, puisqu'ils n'avaient pas de titre de champion de France et qu'ils avaient perdu la finale de la Coupe d'Europe en 99, je crois, contre une équipe irlandaise. Je me rappelle que c'était en Irlande, il me semble, contre une équipe irlandaise. Ces garçons-là, ils sont partis de Colomiers, ils sont arrivés à Paris, ils ont été champions. Ils ont eu la même trajectoire. Colomiers, c'était un club de la banlieue toulousaine, vraiment emblématique de ces années-là, avec des grands joueurs issus de ses rangs, Fabien Galthié, là on parle de Tabacco, et aussi Jean-Luc Sadourny, qui a été l'arrière du 15 de France pendant très longtemps, qui marque le fameux essai en 94, l'essai du bout du monde. Donc à jamais dans nos cœurs pour ça au moins. Voilà, et Patrick Tabacco, c'est un troisième lignel de talent, très bon en touche, très bon jeu aérien, assez rapide, assez adroit. Bref, un joueur qu'on aimait voir jouer et qui a fait une super carrière avec une, franchement une belle longévité. Alors je crois qu'il est reparti chez lui, dans le Gers dont il est originaire, reprendre l'exploitation agricole familiale. Donc il est dans la tradition des rugbyman agriculteurs, hein, chez Néo-Zélandais, mais manifestement à quelques joueurs français comme lui. Et puis moi j'aime beaucoup Patrick Tabacco pour une caractéristique majeure, c'est qu'il est né en 1974, comme moi. Donc je peux pas passer sous silence cette qualité magnifique. Et puis j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai joué contre lui, moi, avec le Racing à l'époque, dans une compétition improbable qui n'existe plus, qui s'appelait la Coupe de la Ligue, où tout le monde, ou nous en tout cas, qui souffrions un peu en championnat de Pro D2 à l'époque, on envoyait des équipes réduites et on avait pris une énorme raclée contre le Stade Français, dont je tairais le score par pudeur. Voilà. Mais lui, il se souvient pas avoir joué contre moi, mais moi j'ai joué contre lui.
Merci Théo. Donc allez, sans tarder, nous allons tout de suite à la rencontre de Patrick Tabacco. Bonne écoute. Ok, je suis très content d'être là aujourd'hui avec Patrick Tabacco. Merci Patrick d'être venu sur Pack the Pot.
Mais avec plaisir. Bonjour Thierry, bonjour à tous les auditeurs.
Donc aujourd'hui, vous êtes dans la Gers. Donc moi, je connais un peu quand même la France. Je connais Toulouse, je connais Pau, mais je ne suis jamais allé dans la Gers. Est-ce que c'est votre pays d'origine, votre famille ?
Oui, exactement. Je suis né à l'Île-Jourdain. C'est aux portes de Toulouse. C'est côté est du Gers. Donc je suis né à l'Île-Jourdain. J'ai fait mes études à l'Île-Jourdain parce que mes parents étaient agriculteurs à l'Île-Jourdain. Et aujourd'hui, je suis revenu sur l'exploitation familiale parce que des trois enfants, je suis le seul à avoir les diplômes pour la reprendre.
D'accord. Et ils cultivaient quoi, vos parents ?
Alors, durant toute mon enfance, on a fait trois cultures majeures, le blé, le tournesol et de l'ail. Donc, j'ai passé tous mes étés à peler de l'ail sous le hangar avec parfois certains amis qui venaient me donner un coup de main. Mais sinon, les cultures majeures, c'était blé, tournesol, enfin, les grandes cultures, sur une petite exploitation, parce qu'elle ne fait que 40 hectares, en fait. Et un céréal, c'est tout petit. Donc, c'est pour ça que mes parents faisaient un hectare d'ail pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille.
D'accord. Et donc, vous êtes genre le garçon à 13 ans, vous conduisez déjà un tracteur ou,
Oui, je n'ai pas le souvenir, mais effectivement, dès qu'on accède aux pédales, dès qu'on a les jambes assez longues pour toucher les pédales, on monte sur un tracteur. Oui.
Et donc, ça vous a donné finalement envie de devenir agriculteur quelque part
parce Oui, que... alors effectivement, j'ai un frère et une sœur, eux n'ont pas suivi du tout d'études agricoles. Moi, dès le plus jeune âge, je voulais être maraîcher. J'étais en admiration devant le potager de ma grand-mère là, qui était... très très bien entretenu sur Auch, parce qu'en fait j'ai deux exploitations agricoles, j'en ai une à l'Île-de-Jourdain et une à Auch. Il y a 30 hectares à l'Île-de-Jourdain, il y a 10 hectares à Auch, bon, le tout faisant 40 hectares, mais celle d'Auch aujourd'hui n'est plus cultivée. Donc ma grand-mère qui vivait sur Auch avait un magnifique potager et elle m'a donné le goût du maraîchage, de la nature, de la culture de légumes et de végétaux. Donc j'ai suivi des études agricoles dans un premier temps et je me suis spécialisé dans l'horticulture et les jardins espaces verts dans un deuxième temps.
D'accord. Donc là, c'est le moment dans l'épisode où j'apprends un mot en français, hein, parce que maraîchage, c'est quoi exactement?
Le maraîchage, c'est la culture des légumes.
Ah, ok.
Voilà, c'est le jardinage. Jardinage, mais de légumes.
Ok. Bah, c'est marrant parce que nous sommes le même âge, nous sommes tous les deux de 74. En fait, c'est marrant aussi parce que j'ai pas grandi sur un ferme, j'ai grandi avec des parents un peu hippies. Mais on avait un gros jardin et donc j'ai passé beaucoup de temps très jeune en jardin aussi. Et il me semble par la suite, vous avez fait des études aussi pour être paysagiste, si j'ai bien compris.
Voilà, donc j'ai fait un bac agricole, un BTA généraliste à l'époque sur Auch. Et puis je me suis expatrié sur Nice pour suivre des études d'horticulture, un BTS, un jardin espace vert sur Antibes, ce qui m'a amené à jouer également à Nice en junior au rugby.
Ouais. Et mon père était paysagiste, donc je connais un petit peu ce métier.
D'accord.
Donc, si on parlait un peu de rugby, donc vous avez dit que votre carrière, vous avez joué à Auch. Vous avez commencé à Auch, c'est bien ça?
Non, j'ai commencé à l'Île-de-Jourdain, mais j'ai commencé tard. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'étais au collège, j'étais en quatrième. Et j'ai commencé parce qu'en fait, j'étais bourré de complexes. J'étais grand, j'étais maigre, j'étais différent. Je me sentais différent des autres. Je voulais absolument faire du sport. Donc, je savais pas si j'allais faire du foot, du tennis, du basket, du rugby. Et puis cette année-là, le prof de sport qui venait d'arriver sur l'Île-de-Jourdain était aussi l'entraîneur de l'équipe 1 de rugby de l'Île-de-Jourdain. Donc la première heure de sport a été consacrée au rugby et il a fait son recrutement. Et c'est comme ça que j'ai commencé au rugby parce que cet homme-là est venu chez moi. Il m'a prêté ses crampons, il m'a prêté son short, il m'a tout mis à disposition pour que je puisse commencer à jouer au rugby. Contre un petit peu l'avis favorable de mes parents qui, eux, étant agriculteurs, préféraient que le mercredi et le week-end, je sois sur l'exploitation à leur donner un coup de main dans les champs, à nettoyer les mauvaises herbes, plutôt que d'aller jouer au rugby.
Donc, c'est une belle histoire, ça. Et qu'est-ce que vous avez plu, finalement, dans ce sport par rapport à d'autres?
Déjà, ce sport m'a permis d'assumer toutes ces différences et de ces complexes, finalement, en faire des qualités. Des qualités, être grand, être mince, ça m'a permis d'aller chercher des balles en hauteur, chose qui au quotidien, dans une vie lambda, la taille ne me servait pas à grand-chose, si ce n'est à être différent, et à 14, 13, 14 ans, c'est compliqué. Compliqué quand on voit tous ses copains qui sortent avec des filles, et nous on ne sort pas avec des filles parce qu'on est différent, on ne les attire pas, alors certes on est gentil, on est mignon, c'est agréable de passer du temps avec nous, mais les filles ne tombent pas amoureuses de nous. Et ça, je le vivais très mal. Donc, le rugby m'a donné en fait un statut. Je me suis vite aperçu que le simple fait de dire que je joue au rugby, ça donnait de l'envergure à la personne. En fait, je ne sais pas, ça semblait être courageux que de jouer au rugby. C'était une qualité supplémentaire. Et puis surtout, après, j'ai été entouré d'une bande de copains et c'est un loisir qui est vite devenu, indispensable.
Oui, c'est vrai. Moi, j'avais joué au foot américain à cette époque-là, à cette même âge. Et j'avais fait un peu de théâtre, un peu pour dépasser, parce que je passais aussi grand que vous. Mais je me souviens du moment où, en fait, j'avais le sentiment que tout n'allait pas ensemble. En fait, j'étais un peu maladroit. J'ai marché pas bien droit. je me souviens très bien de ce moment-là. Et c'est vrai que le sport, ça fait grandir et ça fait un peu affirmer. Donc, par la suite, vous avez continué avec vos études. Le rugby, à ce moment-là, ça restait toujours un loisir ou est-ce que vous commencez d'avoir des idées pour une vision vraiment d'un carrière?
Non, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir mener les deux de front. Pour le bac, j'avais 18 ans, donc 18 ans le rugby. Alors ça, c'est dans les années 92. 92-94, le rugby n'est pas encore professionnel. Moi, je suis un jeune joueur, je joue en junior. J'ai aucunement envie de passer mes journées à pratiquer du rugby. Si à l'âge de 17 ans, 18 ans, on m'avait demandé si je voulais être professionnel, j'aurais dit non. C'est marrant, c'est paradoxal, mais parce que ce n'était pas encore dans les mœurs, parce que c'était un loisir dans lequel je prenais beaucoup de plaisir, mais ce n'était pas la première de mes passions, on va dire. La première de mes passions, c'était plutôt la nature, c'était plutôt les animaux, le bricolage. Le bricolage, donc je me voyais passer du temps là-dessus, mais pas jouer au rugby à longueur de journée. Donc, j'ai mené ma carrière de joueur en parallèle de mes études, en privilégiant les études, jusqu'au BTS, que j'ai eu à l'âge de 20 ans donc à Antibes. Et une fois le BTS en poche, je suis revenu sur la région, et c'est là que mon parrain m'a présenté à Jean-Claude Scrella, à l'époque, qui était entraîneur de l'équipe 1 de Colomiers. Alors, j'avais quand même eu une sélection à l'époque où je jouais à Nice, une sélection en junior, équipe de France junior, un seul match qui se faisait contre l'Angleterre chaque année. Et étant sur la région, bon, il m'avait intégré à l'équipe. Alors que précédemment, j'avais fait pas mal de détections, mais je n'avais jamais été retenu dans les sélections. J'étais sur une journée, j'avais du mal à m'affirmer. J'avais besoin de faire partie d'un groupe, d'une équipe. Je venais en complément, mais j'avais du mal à m'exprimer sur une journée, donc j'étais rarement retenu parmi les sélections. Donc, j'arrive à Colomiers, je suis présenté à Jean-Claude Scrella, qui avait donc un petit peu entendu parler de moi, et je signe à Colomiers comme ça, un junior, mais il me faut encore faire à l'armée, et je voulais poursuivre des études, je voulais être, comme j'avais été majeur de promotion sur mon BTS, je voulais tenter l'école d'ingénieur paysagiste de Rennes, de Paris ou de... Il y en avait 3 ou 4 en France. Mais malheureusement, comme j'avais fait un bac auparavant, j'avais un dossier qui était pénalisant. Pénalisant parce que je n'avais pas fait des études générales. Donc, je n'ai pas été retenu. Et c'est pour ça que je suis revenu sur Colomiers. Et je commençais à jouer en équipe 1 à Colomiers. Donc ça, c'était dans les années 95. Et le rugby commençait à se professionnaliser dans certains clubs.
Donc, parlez-moi un peu de Colomiers, parce que c'est une équipe que je ne connais pas très bien en tant qu'Américain. Mais apparemment, il me semble qu'il y a une grande histoire. J'ai vu qu'il y a des super joueurs qui sont passés par là.
Voilà, moi, à l'époque où j'arrive à Colomiers, le club est déjà en top 16. Et j'arrive dans ce club qui a dans son... une équipe de joueurs internationaux qui sont Jean-Luc Sadourny et Fabien Galthié. Donc, c'est des joueurs reconnus qui jouent pour l'équipe de France, que j'admire et pour lesquels je serais bien content de pouvoir jouer avec. Donc, la première année, je joue en junior. Et en fin de saison, j'intègre le groupe de la Une pour les 2 ou 3 derniers matchs. À l'époque, c'est Jean-Claude Scrella qui est donc entraîneur de l'équipe, avant qu'il ne prenne l'équipe de France. C'est au moment où il va quitter Colomiers pour l'équipe de France. Donc, il me fait jouer trois matchs où je suis remplaçant. Donc, je mets mes premiers pas à Colomiers. Et puis, l'année suivante, à l'intersaison, il y a un joueur qui s'appelle Nicolas Linger qui part au dernier moment du recrutement pour Castres, pour le Castres olympique. Et Colomiers n'a pas le temps de recruter une troisième ligne. Et du coup, c'est moi, le jeune joueur, qui monte en senior. Et la carrière va vraiment débuter là.
Vous avez vécu des belles émotions là-dedans, parce que quand même, il y avait 2 finales de Coupe d'Europe.
Alors, voilà, moi, j'ai commencé donc en 1995. J'y suis resté 5 ans jusqu'en 2000. Et durant ces 5 années, on a vécu une progression constante. Avec chaque année, on franchissait un pas supplémentaire. 95, je crois que c'était les demi-finales ou quart de finale. 98, c'est la finale de conférence européenne. 99, c'est la finale de Coupe d'Europe. Et 2000, c'est la finale du championnat de France. Donc, c'était 5 années magnifiques. Magnifiques où on avait des résultats contre toute attente et sans aucune pression, puisque le club ne faisait pas partie des plus riches du moment ni des plus ambitieux. Mais l'ambition est née avec les résultats, finalement.
Et est-ce que vous auriez imaginé à ce moment-là que vous serez un jour sur l'équipe de France et aussi que votre coach, en fait, c'était Jacques Brunel à l'époque, qui aussi, lui, deviendrait être entraîneur de l'équipe de France?
Non, jamais j'aurais imaginé cela. Je voyais bien que tous les week-ends, tous les week-ends, c'est prétentieux, mais régulièrement, j'étais cité parmi les meilleurs joueurs du week-end. Mais pour moi, l'équipe de France, c'était vraiment un seuil au-dessus qui ne m'était pas attribué. Je ne me voyais pas avoir les compétences pour jouer un jour en équipe de France. Et d'ailleurs, le jour où j'ai été sélectionné, je me suis dit, waouh, et maintenant, comment on fait? Puisque jamais j'aurais cru pouvoir avoir le niveau d'y jouer, côtoyer tous ces grands joueurs internationaux, jouer contre et surtout rivaliser, être à la hauteur. Mais bon, voilà, tout s'est fait naturellement. Je n'ai jamais rien espéré finalement. C'est ça qui est fabuleux. Dans ma carrière, il n'y a pas eu de souffrance parce que tout ce que j'ai eu, ça a été du plus, du plus, du plus, toujours du plus.
C'est beau.
Oui, c'est une chance quand je vois tous ces jeunes qui rêveraient de vivre ce que j'ai vécu. Moi, j'ai eu la chance de le vivre sans l'espérer, sans l'attendre. C'est venu naturellement, en suivant juste les conseils des coachs, en prenant du plaisir, en m'amusant, en compensant tous ces complexes.
Ouais, il faut juste suivre son destin, on va dire.
Oui, peut-être, parce que c'est vrai que c'est fait de beaucoup de chance, finalement. Il faut être en forme au bon moment, mais il ne faut surtout pas se blesser. Et ça, on n'y peut rien. Quoi. Enfin, moi, ça m'est arrivé durant ma carrière de me blesser au mauvais moment. On en reparlera, mais après avoir eu 6 sélections en équipe de France en tant que titulaire, je me blesse la veille du tournoi Destination en 2002 à Toulouse. Et c'est Emmanuel Rinaldo qui va prendre le poste du numéro 8 après et qui va le garder.
Mm-hmm. Oui, parce qu'à l'époque aussi, il y avait eu Serge Betson et Chabal aussi qui de Coupe de Monde.
Oui, il y avait Olivier Magne. Alors, moi, c'est particulier. Si j'ai été international, c'est parce que j'avais des qualités de sauteur en touche, notamment, et sur les réceptions de coups d'envoi. Donc, j'étais un joueur très aérien. Et Bernard Laporte a voulu, Jacques Brunel, tout le staff de l'époque, a voulu utiliser ces compétences-là, puisque c'était le début du contre en touche, finalement. 95, on commence à lever. 95, 96, on commence à lever les joueurs en touche. Et va naître le contre. Le contre avec une organisation pour aller voler les ballons à l'adversaire. Donc j'ai été précurseur, je ne sais pas, mais en tout cas, on a été parmi les premiers à mettre en place des contres en touche. Je parle des joueurs qui avaient mon profil. Et donc, faisant partie des meilleurs sauteurs de l'époque, comme disait Bernard Laporte, il a voulu m'utiliser en équipe de France, sauf qu'en troisième ligne, c'était compliqué. Il y avait Serge Betsen et Olivier Magne sur les ailes. Puisque moi, j'étais un troisième ligne de formation, je n'étais pas numéro 8. J'ai toujours joué numéro 7 à Colomiers, au Stade français à mes débuts. Puis, c'est Bernard Laporte qui va me sélectionner en numéro 8. Je n'ai jamais fait un match en numéro 8. Ma première sélection contre les box, je vais jouer numéro 8, je vais mettre un bandeau alors que je ne mettais jamais de bandeau pour les oreilles. Et puis, on va gagner ce match-là. Mais c'est vraiment parce qu'il avait besoin de mes compétences sur la conquête aérienne qu'il m'a sélectionné en numéro 8. Je dénotais un petit peu parce que je faisais 98 kilos, c'est un peu léger quoi, pour un numéro 8. Mmh. On les voit plutôt avoisiner les 110-115 kilos, être peut-être même un peu moins grand, un peu moins aérien et plus impact player à la Sébastien Chabal.
Je pense que les piliers quand même, ils étaient contents et vous préférez-vous?
Ah oui, en touche, oui, mais en mêlée, départ de mêlée, autour de mêlée, quand il faut remonter des ballons, bon, en fait, je jouais comme une troisième ligne, quoi. J'étais sur la ligne de front en permanence, j'étais pas au soutien du numéro 15 comme un vrai numéro 8. Moi, j'avais besoin d'intervalles, je ne faisais pas partie de ces joueurs qui créaient les intervalles en défonçant les lignes défensives adverses. Moi, j'avais besoin d'être au soutien des trois quarts, que le trois quarts manœuvre un petit peu son adversaire direct pour après pouvoir jouer dans les intervalles avec mon corps longiligne.
Et vous avez gagné ce premier match contre l'Afrique du Sud ?
Eh oui, alors cette année-là, en 2001, tournée d'été 2001, on part là-bas avec une équipe vraiment remaniée. C'est les débuts de Michalak, de Poitrenaud, de Nicolas Jean-Jean, il y a Francis Saint-Amac aussi qui part avec nous. Il y a d'autres, j'ai plus la mémoire, il faudra regarder la liste, mais on part avec une équipe de novices et il nous est prédit qu'on prendra 50 points à chaque match.
Ah oui.
Et finalement, le premier match, là, on le gagne, alors que le début de match est compliqué, on prend un essai d'entrée. Je me souviens d'un coup d'envoi où il divise les avants en deux et il tape. D'un côté, le ballon revient de l'autre et on prend un essai d'entrée. Et ce match-là se jouait en altitude. On a rapidement le souffle coupé et on se dit que le match va être très long. Et finalement, ce match-là, on le gagne. Et la tournée est lancée finalement. Et même la tournée est réussie, ne serait-ce que d'avoir gagné un match. Le deuxième match, on le perd de 5 points, mais on se fait agresser et l'arbitre pas toujours à la hauteur des agressions que l'on subit. Donc on perd de 5 points, mais dans nos têtes, c'est un match sur lequel on rivalise largement. Et ensuite, on part chez les Blacks, et c'est l'époque où joue encore John Alomou. Et je vais faire mon premier match contre les Blacks et contre John Alomou. Donc c'est un très bon souvenir et une chance d'avoir joué contre ce joueur qui, à l'époque, était le joueur de rugby par excellence dans notre sport.
On a fait récemment un épisode où on a retracé le match de 99 ou la victoire de la France contre Nouvelle-Zélande, et c'est vrai qu'on voyait les images de John Alomou chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était juste un joueur incroyable.
Mais il était hyper dangereux. J'ai pas eu à le plaquer sur mon match, je suis bien content parce que j'aurais pu me faire désintégrer. Mais bon, il y avait ce jour-là face à lui, il y avait Pepito Elorda qui est aussi un joueur très svelte, mais qui avait rivalisé. Alors on perd de quelques points, mais pas énormément.
Ouais, chouette. On reste un petit peu dans cette histoire de l'équipe de France, cette belle histoire. J'ai noté que vous avez aussi marqué un essai. J'imagine ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas.
Oui, contre les États-Unis en plus.
Ah oui.
Mon seul essai, je l'ai marqué contre les États-Unis. C'était une tournée aux États-Unis et au Canada. Uh-huh. Et c'est une course assez longue sur laquelle je me déchire en fait l'ischio.
Ah zut.
Malheureusement, et du coup, je termine la tournée dans les tribunes. Mais c'était contre les États-Unis, effectivement, mon seul essai. Alors, c'est pas une nation majeure, du coup, c'est pas un essai qui restera dans ma mémoire. Mais j'étais plus un joueur qui faisait marquer plutôt qu'un joueur qui marquait. Moi, sur les deux contre un, je préférais manœuvrer mon adversaire et donner le ballon que manœuvrer l'adversaire et tenter un truc tout seul de peur de ne pas marquer, quoi. Donc, je ne prenais pas de risque à ce niveau-là. Quand j'arrivais proche des lignes, j'assurais le score.
Si on reste encore avec l'équipe de France, donc vous êtes parti dans la Coupe du Monde quand même en Australie. Donc j'imagine en tant que joueur, vous avez déjà fait Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, mais j'imagine en tant que joueur de voyager en Australie à cette époque-là, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre meilleur souvenir de voyage, on va dire?
Ben écoutez, je ne suis pas un grand voyageur. J'ai la chance d'avoir fait un peu le tour du monde grâce à l'équipe de France. Si je n'avais pas joué au rugby, je n'aurais jamais fait autant de voyages, je ne serais jamais parti aussi loin, parce que je suis pas, je suis bien sur mes terres, je suis bien en France, je ne suis pas un grand voyageur. Si on me le propose, j'y vais avec plaisir, et j'ai eu la chance donc de partir loin grâce à cette équipe. Et s'il y a un pays dans lequel je me suis vraiment senti bien, c'est l'Australie. Mmh. Au niveau accueil, au niveau ambiance, au niveau paysage. Alors moi qui suis un fan des animaux, ma priorité, une fois les pieds posés en Australie, c'était d'aller caresser les kangourous. Donc, première journée de repos, j'ai pris un taxi, je suis parti dans un zoo et je suis allé caresser des kangourous. Ensuite, dans le zoo, il y avait la possibilité de faire des photos avec des koalas. Ouais. Donc, j'ai eu un koala dans les bras. J'ai pu poser pour la photo. Je me suis rendu compte, alors c'était un mâle, et les mâles ont la particularité d'avoir deux glandes sécrétrices sur la poitrine, là, et ça diffuse une odeur d'eucalyptus un peu moisi. C'est particulier, c'est très particulier. Mais par contre, c'est un animal qui est très doux, qui est adorable. Et donc alors voilà, c'est marrant, tout le monde vous parlerait de match, moi je vous parle d'animaux.
Il y avait une odeur spéciale dans le vestiaire.
Alors je ne l'ai pas ramené dans le vestiaire, heureusement.
Ouais, c'est excellent, merci.
Ensuite, on est allé, on a fait Melbourne, on a fait Sydney, on a séjourné à Sydney sur la plage de Bondi Beach. On avait l'hôtel juste en face de la plage. Mmh. Là, j'ai adoré l'ambiance. C'est vraiment comme dans les films, là, les gens à 6h du matin qui vont faire leur footing. Une population très sportive et surtout très accueillante, très ouverte. Ouais. Vous baladez dans la rue avec votre plan, il y a quelqu'un qui va vous aborder pour vous demander si vous avez besoin d'aide. C'est hallucinant. Mmh.
Donc, j'ai regardé un peu les scores des matchs et j'ai noté que l'équipe de France, ils ont mis sur leurs adversaires en 50 points en moyenne contre le Fidji, le Japon, l'Écosse, les États-Unis. Je me dis, bah tiens, ça devrait être difficile à faire aujourd'hui. Est-ce que c'était parce que votre équipe quand même était super forte, parce qu'il y avait un peu le, il y avait Ibanez et Gaultier, donc les personnes qui avaient un peu plus d'expérience. Tu as déjà parlé des jeunes joueurs de cette jeune vague qui arrivait. Ou est-ce que c'était parce que bon, ces nations-là, ils n'étaient pas encore au niveau. Ou est-ce que c'est un peu les deux?
Alors, c'est un peu des deux. Il y avait une équipe très compétitive. D'ailleurs, Bernard Laporte était persuadé, convaincu qu'on allait être champion du monde. Il voulait à tout prix l'être. Hein. Il partait vraiment. Enfin, pendant 4 ans, on a entendu parler que de ça. Hein. Quand on était sélectionné en équipe de France, c'était pour être champion du monde, champion du monde, champion du monde. Mais les équipes adverses, les équipes de poule à cette époque-là n'étaient pas non plus au niveau où elles sont aujourd'hui. Bon, les États-Unis. Ils n'ont jamais vraiment mis l'accent sur le rugby, ils sont plutôt sur le football américain, mais si demain ils décident de le mettre sur le rugby, je pense qu'ils peuvent être rapidement champions du monde avec les gabarits qu'ils ont, ils peuvent très vite franchir les étapes. Donc ce n'est toujours pas le cas. Ensuite, les Fidji, oui, on les battait régulièrement. L'Écosse, c'est pareil, elle n'était pas au niveau où elle est aujourd'hui. Et en quart de finale, on prend l'Irlande. Et sur ce match-là, si on perd, on rentre en France. Si on gagne, on continue la compétition. Et la petite anecdote, c'est que à ce moment-là, j'avais rencontré une Australienne et j'avais aucune envie de rentrer en France. Certes, j'avais envie d'être champion du monde, mais j'avais aussi envie de continuer à voir cette personne que je savais ne plus revoir après la compétition. Et je faisais aussi partie des réservistes, on va dire. Le poste était occupé par Emmanuel Arena-Rotier, numéro 8. Et moi, comme Christian Labitte, comme Sébastien Chabal, nous étions plutôt remplaçants. Sur les ailes, il y avait Olivier Magne et Serge Petsen, les grands détenteurs du poste. Et donc, on nous appelait les toastis, les toastis, parce que nous faisions partie des joueurs. Donc, les joueurs qui sont pas, qui sont plutôt remplaçants ou dans les tribunes sont invités au cours de la semaine à aller aux réceptions où la France est
Ah, d'accord.
conviée. Les autres joueurs étant plutôt mis au repos, laissés à l'hôtel, ce sont les remplaçants qui vont assurer les prestations. Donc, bon, c'était sympa, hein mais on était un peu loin du sportif. Et du coup, voilà, je m'étais investi dans ma vie de famille. Très bien.
Excellent.
La compétition a duré un mois et demi. Il faut savoir que c'est long quand même, hein, quand vous êtes loin de vos terres. C'est long, surtout moi qui suis très terre à terre, très, très bricoleur, très proche de la nature, des animaux. Donc tout cela, ça me manquait. Et donc il fallait vite que je reconstruise une vie sur place. Chose que j'ai un petit peu fait. Et c'est pour ça que j'ai vécu ce mois et demi de la meilleure des façons. Voilà. Donc j'avais hâte. Je voulais absolument que l'on batte ces Irlandais. Donc chaque fois que je me souviens, on était assis en bordure de stade. Il n'y avait pas de banc. On était assis par terre, nous les remplaçants. Et chaque fois que l'équipe marquait, mais j'étais ravi, je sautais comme un supporter. J'étais
C'est
euphorique.
excellent.
Je cumulais les envies de rester en Australie, entre le sportif et la vie de famille.
Ça lui donne plus de raisons de détester les Anglais parce que c'est ils ont mis fin à ce jolie relation la semaine après.
Et oui, ce match-là, j'étais dans les tribunes, donc un match sous la pluie. C'était moins marrant.
D'accord. Donc on va dire que c'est un coupe du monde pour vous avec plein de belles souvenirs. J'ai des sentiments.
Ah oui, on a vu vraiment un très beau pays. Et puis chaque fois que vous changez de ville, vous prenez l'avion. C'est tellement immense. Donc c'est comme si on changeait de pays à chaque fois.
On va retourner rapidement en France. Donc là, on est un peu sauté l'étape de Colomiers vers le stade français. En fait, vous êtes arrivé à Paris le même temps que moi. En fait, moi, je suis arrivé aussi en 2000. On avait le même âge, donc 25 ans. Moi, je peux dire personnellement, je trouvais ça excellent d'être. Moi, je viens de Caroline du Nord. C'est pas le Gers, mais quand même, c'est un peu plus Clermont-Ferrand, on va dire. Mais c'est très vert. Il n'y a pas des villes comme Paris, Caroline du Nord. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Vous, votre adaptation de ferme, de Gers, de campagne vers cette vie, vers cette grande ville, ça se passait comment?
Alors, moi, j'ai toujours aimé surprendre. Et quand le Stade français m'a contacté, là aussi, il y a une belle anecdote à raconter avec Hélène Ségara, notamment. Quand le Stade français m'a contacté, j'y ai vu, encore une fois, la possibilité de surprendre mon entourage. Un paysan qui monte à la capitale, un petit joueur de rugby, du Gers qui va évoluer dans un staff international, puisque au Stade français, c'était le début donc, des mouvements de joueurs, et on les considérait même comme des mercenaires, puisqu'ils venaient des quatre coins du monde déjà. Bon voilà, c'était le grand saut, et on me prédisait une perte dans les abîmes des nuits parisiennes. Mmh. Donc c'était un sacré challenge, et j'ai voulu le relever pour différentes raisons. La première, c'est que ce club-là, grâce à Max Guazzini, offrait autre chose que du rugby. Moi, durant toute mon enfance, le samedi soir, on regardait la télé avec mes parents à la campagne, et on regardait Patrick Sébastien, le showbiz, les strass, les paillettes. Et j'étais en admiration devant ces femmes qui dansaient à moitié dénudées, avec des strass, des paillettes. Ça me faisait vraiment rêver. Et je voulais savoir ce qui se cachait derrière. Donc, en montant à Paris, je savais que Max Guazzini allait m'offrir la possibilité de graviter dans cet univers-là et de voir comment se passaient les coulisses. Et je ne me suis pas trompé, puisque la première année, je suis arrivé dans cette équipe où il y avait déjà une troisième ligne qui tournait bien avec Richard Poole-Jones, avec Christophe Mouni, Christophe Julien numéro 8. Et donc, j'étais régulièrement remplaçant. Et du coup, étant remplaçant, j'ai Max Guazzini qui me sollicite régulièrement pour aller le jeudi soir participer ou voir des comédies musicales, des concerts, des animations sur Paris. Et moi, je suis ravi parce que je sais que dans ces soirées-là, j'avais croisé du très beau monde. Et j'appelle régulièrement, la première année, j'appelle régulièrement mes parents pour leur dire « Écoutez, j'ai rencontré un tel, j'ai rencontré une telle, j'ai discuté avec un tel. » C'était hallucinant, quoi. Moi, le petit paysan, je discutais avec les stars du showbiz. Quand Énergie recevait des personnalités, Mariah Carey, Ophélie Winter, Madonna, Max m'appelait, il me disait « Viens, passe à Énergie, viens faire une photo, on la mettra sur le site, ça fera le buzz. »
T'as fait une photo avec Madonna ?
Ouais, Énergie avait reçu des auditeurs qui avaient gagné, une cinquantaine d'auditeurs, et je faisais partie, donc avec Max Guazzini, on s'était rendu à l'interview. Et donc, j'avais Madonna à 5 mètres de moi. C'était fabuleux. Non, avec Madonna, je n'ai pas fait de photos. Ouais. Par contre, j'ai fait des photos avec Ophélie Winter, avec Mariah Carey, avec Lindsay Gara, puisque si j'ai signé à Paris, c'est parce que je voulais rencontrer Lindsay Gara et que Max m'a permis de la rencontrer. C'est comme ça que j'ai signé à Paris.
Et tes parents, pendant cette époque-là, ils sont « oui, oui, c'est bien fiston, mais quand est-ce que tu reviens ?» ou ils sont contents pour toi que tu vis ta vie parisienne?
J'en parlais justement avec ma mère dernièrement. À ce moment-là, c'était notre quotidien. C'était presque normal, c'était classique, donc c'était chouette, mais il n'y avait rien d'extraordinaire, il n'y avait rien de... C'est maintenant que l'on se rend compte que c'était une période, ma période faste, et puis surtout une période exceptionnelle, que j'ai vécu des choses que peu de gens auront la chance de vivre. Mais quand vous le vivez, quand c'est votre quotidien, finalement, ouais, ça ne vous fait pas perdre pied. Moi, ça ne m'a pas fait perdre pied, et peut-être que c'est le fait que mes parents soient de vrais terriens qui m'ont permis de les garder sur terre. C'est sûr.
Si on parlait un peu des coachs quand même, parce que vous avez eu la chance d'être avec Jacques Mounel, avec Delaporte. Après, c'est Nick Mallet quand même, Afrique du Sud, qui était entraîneur de l'équipe nationale d'Afrique du Sud avant. Comment est-ce que tu as ressenti cette différence entre ces coachs anglo-saxons et ces coachs français?
Alors, est-ce qu'il y a une différence? Je pense qu'il y a une différence entre les hommes. Est-ce que c'est au niveau des nationalités? Je ne sais pas, mais chaque homme a sa technique, a son charisme. Oui. À son projet de jeu, Connolly, quand je suis arrivé au Stade français, il nous a donné un bouquin qui faisait 3 cm d'épaisseur où il y avait toutes les combinaisons de jeu que l'on allait utiliser au cours de la saison. C'était un truc de fou, quoi. C'était les débuts du professionnalisme. Pour nous, c'était hallucinant. Et c'est un guide qu'il fallait avoir sur soi tous les lundis quand on allait à la vidéo pour faire des annotations, pour étudier les nouvelles combinaisons. En fait, on n'avait pas tout à apprendre. Dès le début de la saison, on allait les utiliser en cours de saison. Donc, il avait tout programmé. Donc, pour nous, latin, c'était une hyper-organisation à laquelle on n'était pas habitué. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le charisme de Nick Mallet. Mmh. Nick Mallet, quand il parlait, il me faisait vibrer. Il me faisait vibrer, il me donnait envie d'aller à la guerre. J'avais l'impression qu'il pouvait venir avec nous. Il s'entraînait avec nous, il avait 46 ans, 45 ans à l'époque, mais il avait encore un physique. Aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ce qu'il faisait avec nous à l'époque. C'était un sacré athlète, et quand il prenait la parole, il était totalement crédible. Moi, j'ai adoré, et d'ailleurs, il est venu 2 ans à Paris, il est reparti avec 2 titres. 2 ans, 2 titres, et pourtant, les saisons ont été compliquées. Je me souviens de 2004, après la Coupe du Monde, quand on revient de la Coupe du Monde au Stade français, il y a tellement de joueurs qui sont sélectionnés pour la Coupe du Monde que le club figure parmi les derniers du classement quand on revient au mois de décembre. Et il fallait à tout prix être dans les 8 premiers pour jouer les playoffs. Donc là, ben, on va s'accrocher et on va y arriver. Et ensuite, on va jouer les playoffs qui vont nous donner accès aux phases finales et on va être champion de France cette année-là. C'est un truc de fou. On est parti vraiment du bas de tableau. Et tout au long de la saison, on a remonté le classement petit à petit. Bon, après, on avait une équipe de feu. Mais Nick Mallette était l'entraîneur qu'il fallait à ce moment-là.
Superbe. J'imaginais que même si... J'imagine qu'il parlait anglais dans ses speeches et tout, mais quand même, s'il n'y avait pas de problème avec l'équipe au niveau de barrière de langue ou...
Ah, lui, il parlait français.
Ah, il parlait français.
Lui, il parlait français. Et sur le terrain, il y avait aussi beaucoup de joueurs étrangers. Donc, en fait, on travaillait sur des mots-clés. Et moi, il m'est arrivé régulièrement de prononcer des mots-clés en anglais. D'ailleurs, les mots-clés anglais sont beaucoup plus courts au niveau des syllabes que les mots français. Donne, c'est deux syllabes. En anglais, c'est give. Garde, c'est deux syllabes en français. C'est une syllabe en anglais. Donc, ça simplifie la communication.
D'accord. Je pense que ça dit plein de choses sur Nick Mallette. Si elle était capable de faire en sorte, avec ses speeches en français, de faire que tout le monde ait envie d'être avec lui, ça montre un peu ses qualités d'homme, que même un barrière de langue, ça ne lui touche pas, quoi.
Non, voilà, c'était vraiment un personnage très charismatique. Quand il prend la parole, il y a des gens comme ça, quand ils prennent la parole, vous buvez leurs paroles, ils arrivent à transmettre tout ce qu'ils veulent transmettre. Il y a un entraîneur en France qui est comme ça, je pense que c'est Urios. Urios à Bègles-Bordeaux, c'est un homme très charismatique. Je pense que lui, il m'aurait fait monter au rideau. Et donc Nick Mallette, quand il prenait la parole, on sentait qu'il avait tellement envie d'être à notre place qu'on était obligé de respecter cette place-là. Parce que sinon, lui, il l'aurait prise à bras ouverts.
Superbe.
Je ne sais pas comment l'expliquer, c'était hyper fort. Hyper fort.
Pour finir sur le Stade français, donc, tu es devenu champion de France, mais pour le faire, il fallait battre Toulouse. Donc, tes amis, c'était quand même content pour toi ou pas ou...
Alors, moi, je rêvais de pouvoir battre Toulouse. Parce que quand on joue à Colomiers étant considéré comme le petit poussé à côté de l'ogre toulousain, je ne les avais jamais battus. Et la première fois où je vais les battre en finale. Donc, c'est fabuleux. Mais effectivement, Toulouse, à l'époque, les matchs Stade français, Stade toulousain, c'était les PSGOM de l'époque, quoi. C'était le match attendu par tous les supporters. Il y avait deux grosses équipes qui s'affrontaient. Et s'affronter en finale, c'était génial. Mais en plus, gagner mon premier titre face à Toulouse. Alors, après, c'est vrai que je regrette de n'avoir jamais joué à Toulouse, parce que, étant natif de la région, ça serait une fierté également. Mm-hmm. Mais bon.
Tu es quand même retourné dans le sud, parce qu'après Paris, il y avait section Valoise, à Pau, il y avait Castres. C'était parce que envie de retourner aux routes.
Oui, parce que moi, la vie parisienne, c'était pas ma vie rêvée. Je voulais découvrir ce monde, cet univers-là, mais je savais que je n'y ferais pas ma vie. J'avais trop besoin d'avoir les pieds dans la terre, les mains dans la boue pour vivre, pour passer ma vie à Paris. Je l'ai fait à 26, 30 ans, c'était très bien, mais je n'aurais pas élevé des enfants à Paris, ça c'est sûr. C'est une ville dans laquelle je me sentais prisonnier des embouteillages, prisonnier des immeubles. Moi, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'odeur naturelle. Je perdais mon temps, mais à Paris, la vie finalement passe trop vite. Et j'avais l'impression de vieillir deux fois plus vite à Paris.
Bon.
La campagne me manquait trop. Et puis surtout, il y avait une proposition financière très intéressante à Pau qui m'a fait oublier le reste. Et c'est bien dommage, je dirais.
Dans quel sens ?
J'aurais dû faire 2 ans de plus à Paris.
D'accord.
30 ans, j'aurais dû pousser jusqu'à 32 ans. Vivre intensément le haut niveau. Puisqu'après à Pau, ça a été compliqué. On a joué le bas de tableau, on a joué le maintien la première année, et la deuxième année, on est descendu en Pro D2. Donc, c'est pour ça que je suis parti à Castres. Et donc, ça a été, je quitte une équipe championne de France et j'évolue après dans une autre équipe où on va jouer les bas de tableau. Donc, je ne me vante pas d'avoir fait descendre la section en Pro D2, mais je fais partie de l'équipe qui a. Malheureusement.
Je pense qu'il n'y avait pas de VIP à Pau non plus.
Non, mais c'était une très belle ville par contre.
Oui, oui.
Au niveau sportif, ça a été compliqué. Par contre, j'ai passé de très bons moments. Je pensais même que je ferais ma vie à Pau. C'est pour ça que j'avais acheté une maison. Je pensais y rester. Mais bon, les résultats n'ont pas suivi. Et comme Castres venait me chercher, je ne pouvais refuser la proposition.
Je connais un petit peu parce que mon grand-père habitait là, donc je suis arrivé quelques fois. Donc j'ai pris le train pour Pau.
D'accord. Ah oui. Oui, c'est vrai, oui.
Donc là, finalement, Castres, c'est la fin de votre carrière professionnelle. Vous allez arrêter, vous allez finir votre carrière. Je vous dis, donc, mais quand même, c'est difficile de quitter le rugby. Vous restez toujours en contact avec le rugby, c'est bien ça?
Oui, alors ma carrière s'arrête en fait sur une blessure. J'ai 34 ans à l'époque. J'attaque la saison donc 2007-2008. J'ai une douleur dans l'ischio-jambier gauche là qui s'est désinsérée quelques années auparavant. J'ai une désinsertion totale de l'ischio. J'ai été opéré. On m'a posé des ancres. Il y a une petite ancre qui se balade dans le tendon. Elle a sauté. Elle se balade dans le tendon. Et donc elle me provoque une inflammation régulièrement. Et je décide au mois de décembre 2007 de me faire opérer parce que le chirurgien me dit que ça va être rapide. On va aller la chercher. On l'enlève et 3 mois après, je suis de nouveau sur les terrains. Sauf que la rééducation finalement va être beaucoup plus longue parce que le tendon aura été trituré, il a eu du mal à trouver l'ancre, donc je vais mettre 6 mois à revenir vraiment sur mes 2 jambes. Et 6 mois, donc c'est la fin de la saison. Et à l'époque, Alain Gaillard, qui est entraîneur de Castres, me dit, écoute, tu as 34 ans, on préfère investir sur un jeune et on va t'aider à te trouver un autre club en Pro D2 si tu veux. Je lui dis non, 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 c'est pas la peine. Je comprends que vous ne vouliez pas me garder. C'est l'année où ils vont chercher Chris Mazoé. Et donc, moi, à cette époque-là, j'ai la société qui est d'encadrement de maillot qui marche plutôt bien. Et donc, j'ai des machines pour faire les cadres que j'ai dans un atelier, dans une maison à Castres. Là, et comme je ne compte pas faire ma vie à Castres, je reviens sur l'exploitation familiale et j'aménage mon atelier sous le hangar de la ferme familiale pour remettre mes machines en route et relancer l'activité. Et en parallèle, donc, j'ai Lille Jourdain, le président de Lille Jourdain, qui me sollicite et qui me dit, écoute, tant que tu es là, prends une licence à Lille Jourdain. Si tu dois repartir, tu repars quand tu veux, mais en attendant, tu nous apporteras toute ton expérience. Et c'est comme ça que j'ai signé à Lille Jourdain. Et au final, je vais abandonner l'idée de rejouer au niveau. Je vais plutôt me concentrer sur ma reconversion et je vais passer 2 saisons à Lille Jourdain, 2008-2010, où on aura des résultats plutôt satisfaisants, puisque la première année, on jouera le quart de finale du championnat de France. Donc ça, c'était bien sympa. Mais bon, j'arrête là-dessus.
D'accord.
Et ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir joué, d'être venu jouer au niveau amateur, j'ai coupé en douceur finalement avec le statut de joueur. Je me suis rendu compte
Oui.
qu'à un moment donné, on se rend compte que, en s'entraînant moins, en vieillissant, le corps résiste moins. Et puis, au final, on se dit qu'on n'a plus rien à faire sur un terrain de rugby parce qu'on se met finalement en danger. Je me souviens arriver sur certaines mêlées, me mettre en position et avoir de la tachycardie, quoi. Donc, c'est, si vous, là, maintenant, il faut comprendre que tu as 36 ans, tu es vieux et qu'il faut que tu arrêtes.
Je me souviens très bien j'avais 40 ans, j'avais appris le rugby très tard, j'avais 34 ans, je pense, c'était en 2007. Et c'était juste en folklore avec un groupe de potes que j'avais rencontré un peu comme ça, un peu par hasard. Et je me souviens très bien, donc à l'âge de 40 ans, je pense, il y avait un moment où je disais, mais qu'est-ce que je fous sur le terrain?
Oui, non mais c'est ça, et je crois qu'il faut l'atteindre ce stade-là, parce que si on ne l'atteint pas, on reste sur une frustration, parce qu'il y a le corps et l'esprit pense qu'il peut encore jouer au plus haut niveau, et le
Oui.
corps sait très bien qu'il ne peut plus. Donc il faut qu'à un moment donné, les deux soient en corrélation, et que l'esprit comprenne que le corps est fatigué, pour accepter cette transition.
Ouais.
C'est vraiment une décision définitive.
Et je trouve ça formidable cette idée d'un joueur de super niveau qui arrive dans le Federal 2. Ça, aux États-Unis, ça n'existe pas en fait. On a la NFL, mais après la NFL, il n'y a pas de jeu de foot américain local en fait. C'est que par l'âge où on peut jouer. Oui, on n'a pas des petites équipes, mais je trouve ça formidable pour les équipes pour ton équipe qui t'a reçu. Ça devrait être super pour des jeunes joueurs qui avaient pu avoir l'expérience de jouer avec toi.
Oui, c'était intéressant pour les deux, hein. Moi, ça me donnait l'occasion encore de pratiquer un petit peu. Après, quand on fait partie du collectif, même l'entourage oublie vite qu'on a joué au plus haut niveau, qu'on a vécu des choses exceptionnelles. On se met au niveau, tout simplement, au niveau à tous les niveaux.
Là, on revient au moment de fin de carrière et de ton transition, mais en fait, apparemment, c'est une transition dont la durée, parce que tu avais démarré déjà ton entreprise KDM Sport. Est-ce que tu peux nous
Oui.
expliquer ce que ça se fait, KDM Sport?
Alors, KDM Sport, c'est une société qui est spécialisée dans l'encadrement de maillots de sport. je reçois des maillots, je les mets sous verre pour que les gens puissent les accrocher au mur. Et j'ai aussi inventé un petit kit pour récupérer les autographes, parce que je me suis aperçu que durant ma carrière, je signais beaucoup d'autographes sur des supports qui étaient vraiment ramassés au dernier moment par terre, un bout de feuille déchiré, des supports de mauvaise qualité finalement, qui allaient rapidement finir à la poubelle ou dans un tiroir parce que les gens n'avaient pas ce qu'il fallait pour les mettre en valeur, les accrocher au mur, les exposer. Donc j'ai sorti un petit kit qui reprend l'idée du maillot encadré que j'ai appelé le dédicadre. C'est une réplique du maillot encadré, mais sous un format beaucoup plus petit et auquel j'ajoute un feutre. Donc il y a le maillot du club, le cadre et le feutre. Donc les gens font signer le maillot et ensuite ils le mettent dans le cadre et une fois rentrés à la maison, ils peuvent de suite l'accrocher au mur.
Donc si ça vous tente, et nos chers écouteurs que j'aime bien dire, nos chers auditeurs, allez sur www.patricktobacco.com, super vidéo d'ailleurs qui explique tout sur ton site, il est vraiment bien fait. Et moi, je pense qu'aux États-Unis, on a l'habitude d'avoir des man caves, donc c'est les endroits où les garçons se mettent pour jouer au billard ou jouer au poker, et je vois très bien ce que tu fais dans un créneau de maillots. Je trouve ça, comme tu as dit, c'est un très joli cadeau pour un coéquipier qui prend sa retraite. Ça peut être une très bonne idée, ce genre de choses, parce que je trouve que c'est de très bonne qualité et abordable aussi, il me semble.
Oui, j'ai voulu me positionner de toute façon au plus bas du marché. Donc, je suis pour l'encadrement de maillot, je suis à 125 euros TTC à l'unité. Mais j'ai une technique qui m'appartient. Je voulais que le maillot soit bien tendu. Je voulais que le maillot prenne toute la place dans le cadre parce que souvent, on a peu de place pour exposer un maillot encadré. Donc, j'ai un format 50 par 65, un format classique, même si je peux faire du sur-mesure. J'ai une technique qui se rapproche plus de la menuiserie que de l'encadrement classique où je tends le maillot sur une surface suffisamment rigide, suffisamment dure qui me permet de l'agrafer et donc une tenue parfaite dans le temps garantie.
Et j'ai entendu plusieurs fois les mots de manuel, de retour aux sources aussi, et j'imagine que c'est ça que tu aimes dans ce travail.
Oui, parce que c'est une pluriactivité, du coup, l'encadrement de maillot, c'est l'activité principale, mais j'ai une seconde activité qui est donc agricole, puisque j'ai repris cette exploitation en 2008 quand j'ai arrêté ma carrière, mais ce n'est pas mon activité principale, c'est encore une fois une activité non lucrative où j'ai plutôt cherché à préserver le patrimoine dans la famille. Et donc, j'ai limité le travail, puisque l'exploitation qui était céréalière, je l'ai basculé en exploitation bio déjà. J'ai tout mis en bio et j'ai tout mis en prairie. Et je fais maintenant des petites bottes de foin bio que je vends à des particuliers ou des éleveurs. J'ai aussi mis en place de la location de jardins potagers. Je loue des parcelles de jardins potagers à des gens qui veulent jardiner, puisque j'ai eu ce besoin quand j'étais à Paris de mettre les mains dans la terre.
Ouais.
Et je n'avais pas la possibilité, donc... Voilà, j'ai ouvert ce site en 2009, ça fait 10 ans que ça existe, et j'ai une vingtaine de familles qui prennent plaisir à venir cultiver leurs propres légumes en bio.
Bon, pour finir, donc merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes à la base une pack d'amis qui a commencé ce podcast, et je voulais savoir qui est pour toi, qui est ton pack de potes.
Mon pack de potes, il est assez restreint finalement, donc je connais beaucoup de monde. J'ai des relations avec plein de gens, mais des vrais amis... J'en ai pas beaucoup, enfin, des vrais amis, des gens que j'appelle régulièrement, ou du moins quand on ne s'est pas appelé pendant 6 mois, quand on s'appelle, et c'est comme si on s'était vu la veille. C'est Hervé Manin qui a joué au Stade Toulousain, qui est venu jouer à Colomiers. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, une seconde ligne, une troisième ligne, qui est plus grand que moi, plus costaud. Et Marc Dalmazo, qui est entraîneur de Brive, voilà, avec qui j'ai joué à Colomiers. Voilà, c'est les deux joueurs avec qui je prenais vraiment plaisir à sortir en troisième mi-temps. Lorsque je jouais à Colomiers et bien. Avec qui j'ai gardé de très bonnes relations. Ouais. Mais sinon, voilà, des amis proches, on n'en a pas beaucoup. Moi, j'ai tendance à vivre au quotidien. Je ne regarde pas vraiment en arrière puisque je n'ai pas trop de mémoire. Donc, je ne subis pas le passé. Le passé a fait ce que je suis aujourd'hui. C'est génial parce que je vis vraiment comme j'aurais aimé vivre. Ouais. Je vis de mes passions. Mes passions qui ne sont pas alimentaires, donc je n'ai pas cette pression financière-là. Mais je prends un plaisir au quotidien. Je n'ai pas besoin de vacances, je suis finalement en vacances toute l'année.
C'est excellent. Et pour cette équipe de France, est-ce que tu les vois comment
J'ai toujours pensé qu'il y avait du potentiel en équipe de France, il faut juste le révéler. Et je pense que Fabien Galthié est l'homme de la situation. Fabien a eu peut-être certaines difficultés en club parce que je le connais. Et Fabien, c'est quelqu'un de très exigeant. Fabien aime bien piquer les joueurs, il aime bien les vexer pour qu'ils réagissent. Mais ça marche un temps. Et en club, quand on vit avec les joueurs en longueur de saison, c'est compliqué. Au bout de 6 mois, on peut se faire des adversaires. Alors qu'en équipe de France, c'est une sélection. Il pourra imposer sa façon d'être et de faire, sachant que si le joueur ne lui convient pas, ben il rentre dans son club et on en prend un autre. Donc je pense que c'est vraiment l'homme de la situation. Et au-delà de ses capacités de manager, il a aussi c'est un homme qui connaît bien le rugby, qui sait le réinventer, qui a su s'entourer aussi de compétences. Il a pris Karim Ghezal avec lui pour gérer la touche. Karim, c'est quelqu'un qui est de l'île de Jourdain, avec qui que je connais bien. Oui, j'étais à l'école avec son frère. C'est un spécialiste de la touche. Vraiment, c'est un spécialiste de la touche qui est passionné par cette phase de conquête et qui sait aussi la réinventer. Donc, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour aller loin. Et pour avoir discuté avec Fabien Galthié il n'y a pas très longtemps et lui avoir dit de façon ironique « Tu seras champion du monde en 2023 », j'ai adoré sa réponse. Il m'a dit « C'est mon destin ». Super. Et ça, quand on est entraîneur, si on n'a pas cette détermination-là, qui d'autre peut l'avoir ? Ce n'est pas la détermination qui fera le résultat, mais au moins, elle y contribuera.
Oui, écoutez, je pense que c'est un parfait moment de s'arrêter. Merci beaucoup, Patrick, pour ton temps, pour tout ce que tu nous as dit. Donc, allez sur www.patricktabacco.com. Franchement, c'est des très bonnes qualités. Je trouve ça super chouette. Et bonne continuation à toi, Patrick. Merci d'être là avec nous à Pacte Pot.
Merci, Thierry. À très bientôt. Et bonne continuation à tous les auditeurs également.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère et je crois bien que vous avez vraiment pris plaisir avec Patrick comme moi.
Mais c'est sûr, mon ticket, qu'ils ont pris du plaisir. Moi aussi, j'ai pris du plaisir. Et vous qui êtes en vacances, sachez que nous aussi, on va prendre un peu de temps pour nous, pour se ressourcer, un peu de off, pour aller à la playa, pour visiter la France. Profitez-en pour écouter, pour réécouter, pour partager nos interviews, nos 15 de rêve, nos réactions sur les matchs des Bleus, les reportages sur le rugby à 7, sur le rugby féminin. On en a fait des choses, le dernier épisode sur la reprise, il y a un peu tout, il y a de quoi vous accompagner sur toutes les plages de France pendant tout l'été.
Et oui, donc bon vacances à tous, on revient en septembre avec la nouvelle saison de Top 14. Donc ça veut dire d'autres épisodes sur des matchs de rétro rugby classique, sur des interviews et surtout notre 15 de France. Allez tout le monde, bon été à vous.
Salut à tout le monde, passez de bonnes vacances, bronzez bien et jamais trop loin d'un pack.